Alors, bienvenue Valérie, tu vas nous parler de la résurrection. On remet l'image de la résurrection, peut-être la deuxième. Valérie Compaoré. Alors, tu viens pas du Burkina Faso, non? Mais c'est ton mari qui vient de là-bas, n'est-ce pas? Donc c'est magnifique, Brésil, Burkina Faso, c'est notre bonheur tout entier. Tu es aumônier, on dit aumônier ou aumônière?
C'est égal.
C'est égal?
Ouais.
Mais quelle ouverture d'esprit, souplesse, fantastique. Donc allons-y pour aumônière, au CHUV et dans des établissements sociaux du côté de la Riviera. Tu veux nous dire quelques mots de cela après?
Ah oui, volontiers.
Peut-être, voilà. Alors, tu vas nous partager le message aujourd'hui, parce que en plus de ce que je viens d'énoncer, tu as beaucoup d'autres cordes à ton arc. Tu aimes la parole et tu aimes la partager avec nous. Merci.
Voilà. Alors oui, je suis bien là. Je n'ai pas oublié que je devais prêcher. Et j'ai déjà eu une grande surprise ce matin, puisque j'ai un de mes collègues prêtres au CHUV qui nous rend visite ici à l'église. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup. Bienvenue, Dominique Jeannerat. C'est un peu ça qu'on vit au CHUV. On a l'habitude, enfin, de vivre ensemble. Le témoignage chrétien. Oui, c'est un privilège d'être à nouveau réunis et de célébrer le Seigneur ressuscité et de méditer ensemble encore cet événement inouï. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Notre Père, avant d'ouvrir les Écritures, nous voulons faire silence pour t'écouter. Et nous te prions pour qu'en écoutant l'Évangile, ta parole travaille en nous et nous forme par le souffle de ton Esprit Saint. Qu'elle ne soit pas une parole usée, défraîchie par les années, mais parole vivante, agissante en chacun de nous, en ton Église, dans toute la société et l'univers. Amen. Alors, je vous invite à écouter le texte dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 20, les versets 19 à 31. Donc on est à Jérusalem, le soir de la résurrection, et ce sont les récits d'apparition de Jésus. Je lis dans la traduction de la Tobe. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Elle leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit, si je ne vois pas ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la de mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Je ne sais pas quelles sont les impressions, idées qui vous ont traversé à la lecture de ce texte. J'imagine que beaucoup le connaissent, l'ont déjà entendu. C'est Pâques. Chaque année, on relit les mêmes choses. Certains peut-être découvrent ou redécouvrent ce texte et s'interrogent. D'autres apprécient particulièrement le temps pascal. Ils le vivent comme un moment particulier dans l'année et méditent ce mystère. Et c'est d'ailleurs un des encouragements, si vous vous souvenez, laissé lors de notre dernier culte par notre pasteur Nicolas Michel et par Jocelyne Steiner. Pour ma part, j'apprécie particulièrement ce temps. C'est vrai, c'est les mêmes textes bibliques qu'on relit et sans pouvoir l'expliquer, c'est chaque fois différent. Il y a tout d'un coup quelque chose de neuf, quelque chose, un aspect, un autre, qui s'éclaire et qui nous fait bouger. L'événement de la résurrection est indescriptible, unique. Il y a dans l'histoire un basculement, un avant et un après. Et dans nos vies, il y a aussi un avant et un après symbolisé par le baptême, immersion dans la mort et la résurrection du Christ. Et en même temps, il faut le reconnaître, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement beau, inouï, que le temps d'une vie est bien loin et de loin insuffisant pour ne saisir qu'une partie, ne serait-ce qu'infime. Toujours, nous serons dépassé et surpris. Mon souhait ce matin, c'est de partager avec vous ma méditation de ce texte en espérant seulement une chose, que vous puissiez poursuivre la vôtre. Je le redis, aujourd'hui, pas plus qu'hier, nous ne possédons de preuves de la résurrection de Jésus. Près du tombeau, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de journaliste. De scientifiques, nous rapportons de manière détaillée comment cela s'est passé. Nous approchons ce mystère avec un regard de foi, une foi non pas naïve, mais qui intègre les questions, le doute, les peurs. Les disciples de Jésus, dans cet épisode, comme dans les autres récits d'apparition, n'étaient pas en train de prier pour avoir une apparition. C'est juste le mouvement inverse. C'est Jésus qui les surprend. C'est lui qui prend l'initiative de la rencontre. Pensez aux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs, ou plus tard, les disciples qui sont en train de travailler toute la nuit, qui n'ont rien eu. C'est Jésus qui prend l'initiative de la rencontre. Et là, alors, nous dit le texte, qu'ils sont enfermés, repliés sur eux-mêmes, verrouillés par la peur des autres. Et quelques jours, quelques semaines plus tard, ils seront complètement transformés. Et c'est tout le livre des Actes des Apôtres, c'est ce livre que nous prêchons actuellement dans notre communauté. S'il y a une preuve à chercher de la résurrection, elle est à trouver là, dans ce changement radical des disciples après Pâques et le don de l'Esprit. Il y a vraiment pour eux un avant et un après, comme si eux aussi ressuscitent. Oui, leur vie a été transformée, leur comportement, leurs attitudes, sans en faire des surhommes. Et pensez, et ça c'était un plaisir en préparant cette prédication, pensez à la chaîne de témoins de cette résurrection jusqu'à nous aujourd'hui. 2000 ans d'histoire. Vous avez sûrement des noms. Origène, Athanase, Grégoire de Nazianze, les moines irlandais, Anselme de Canterbury au XIe, François d'Assise, Nicolas de Flux, Luther, pourrait y aller siècle après siècle. Comment pourrions-nous aujourd'hui, ici, en 2018, vivre ce que nous vivons ici si le crucifié n'était pas vraiment ressuscité et n'avait pas saisi des générations et des générations? Revenons au texte et à quelques perles enfouies dans cet évangile selon saint Jean. Le rédacteur du quatrième évangile situe cette apparition à Jérusalem le premier jour de la semaine pour les disciples et 8 jours après pour Thomas. La peur et le doute habitent les uns et les autres pour des raisons diverses et légitimes. Il n'est pas dit que Jésus juge négativement ses émotions et sentiments si humains, mais au contraire, ils sont accueillis. Ils sont visités, ils sont transformés, ils sont pris au sérieux. Thomas, dont dit l'évangéliste, n'était pas réuni avec les autres disciples, il n'a donc pas bénéficié de l'apparition et ne croit pas au témoignage de ses amis. La prédication ou le témoignage ne suffisent pas, semble dire Thomas, il lui faut expérimenter personnellement. Et je crois que nous avons déjà là une piste pour nous aujourd'hui dans ce à quoi nos contemporains aspirent. Il n'y a pas plus tard que lundi passé, j'entendais une jeune fille de 30 ans dire « Mais je cherchais Dieu, Jésus, à l'extérieur de moi. » Je l'ai rencontré, trouvé à l'intérieur de moi, dans mon cœur. J'ai relevé 3 actions qui vont libérer les disciples, les mettre en mouvement, les ressusciter, les relever. La première, une parole qui agit. Nous avons tous expérimenté, j'espère une fois, une parole qui tombe juste à pic. Une parole juste au bon moment, dans la bonne situation, et qui fait que quelque chose en nous s'éclaire, s'ouvre. Aux disciples terrifiés, Jésus a la prévenance, la délicatesse de ne pas leur faire un discours, mais de leur dire 2 simples mots en grec, « paix à vous ». Ce vœu de paix correspond, il est vrai, à la salutation traditionnelle hébraïque, Shalom Aleichem. Mais pourtant, là, ces mots adressés par le ressuscité dans cette situation, à ce moment précis, est plus qu'une simple salutation. Plusieurs exégètes parlent de parole performative. Cela signifie que la parole opère ce qu'elle dit. C'est une parole action. Elle est tellement ajustée, elle est tellement dans la cible qu'elle libère, qu'elle restaure, qu'elle recrée, qu'elle ouvre. Et dans le cas présent, elle permet de retisser les liens avec leur maître altérés par les événements de la passion. Et je suis sûre que si on y réfléchit, on peut discerner telle parole, tel geste, à un moment donné dans notre vie, dans notre chemin, qui ont été comme ça, qui nous ont saisis. Le deuxième geste qui va faire bouger les disciples, c'est la visualisation des plaies de leur maître. C'est étonnant. Le miracle des miracles n'aurait-il pas été plus grand sans stigmate, sans reste, sans rien? Au lieu d'une démonstration de force, par exemple en pliant une barre de fer par la pensée, par la puissance de la pensée, au lieu de cela, le ressuscité montre ses plaies. C'est que la résurrection, le miracle des miracles, n'escamote pas la souffrance, la mort, la vulnérabilité, l'humanité. Fabrice Hadjadj le dit à sa manière, dans les miracles ordinaires, les plaies disparaissent, ici, elle reste éternellement. C'est que la résurrection prend la souffrance, la mort à bras-le-corps, elle ne l'évite pas, elle la prend au sérieux et affirme par là que le mal, l'injustice, le péché, la mort ne sont pas absolus. L'humiliation, l'échec, la mise en terre, la mise à terre, le fait d'être atterré ou enterré n'est qu'une étape. Et il y a là, de mon point de vue, une formidable espérance extraordinaire, incomparable, une énergie, une force et en même temps un socle, nous donnant de ne pas désespérer ni de nous-mêmes, ni de l'Église, ni de la société, ni de la création. Et j'y reviendrai à la fin du message. À la peur et au doute des disciples que nous sommes, est offert la présence du crucifié vivant sur lequel la mort n'a plus aucun pouvoir. Et finalement, le troisième geste offert aux disciples verrouillés, dont le doute est la peur des autres, est une véritable recréation. Après avoir reçu le shalom du Christ, après avoir reconnu leur maître à la visualisation des plaies, ils ne reçoivent rien de moins que le souffle même du ressuscité. Je parlais d'un geste récréateur, pourquoi ? C'est une subtilité dans le texte grec. Je relis juste en français. Après avoir ainsi parlé, il souffla sur eux. Souffler, emphousao, la septante, donc la première traduction de la Bible en hébreu en grec, utilise le même mot pour parler de ce souffle de Dieu à l'homme à l'origine. Donc, il rappelle la première création et ce moment où Adam reçoit lui seul le souffle divin, faisant de lui un être unique à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, le ressuscité, le Fils de Dieu, en faisant ce geste, entend faire œuvre de récréation encore plus belle que la première. Cette année, j'ai eu le cadeau de vivre Pâques dans une communauté monastique chrétienne à Grandchamp, pour ceux qui connaissent. Et le samedi saint, donc le jour entre le vendredi saint et dimanche, c'était le temps des baptêmes, moment où déjà au 1er siècle étaient pratiqués les baptêmes. Et c'est un temps particulièrement opportun si on y réfléchit, parce que par le baptême, nous sommes greffés sur le mystère pascal. Mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui, nous dit Paul. Et avec le baptême était ajoutée l'onction d'huile parfumée symbolisant le Saint-Esprit. Et chacun, dans cette soirée, de manière simple et sobre, avait la possibilité de recevoir cette onction, et par ce geste, chacun a pu vivre quelque chose de ce souffle de Jésus, de ce souffle recréateur, de résurrection. Et c'est pour dire que 2000 ans plus tard, la force de la résurrection et de l'Esprit Saint n'a rien perdu en vitalité. Même si je lisais dans une étude qu'un peu plus de 10% aujourd'hui de nos contemporains croient en la résurrection. Mais encore une fois, la résurrection, ce n'est pas une théorie dont il faudrait apprendre les méandres pour la comprendre, mais une vie nouvelle est toujours nouvelle. Il y avait dans cette retraite une dame de 90 ans qui disait encore « J'apprends encore des choses nouvelles, je vois des choses nouvelles, je vis des choses nouvelles. » Extraordinaire. Ces gestes, ces paroles du ressuscité libèrent les disciples et les mettent au mouvement. Ils sont envoyés. C'est pour dire que la résurrection n'est pas la fin de l'histoire. Elle n'est pas le happy end de l'Évangile, mais le commencement. Aujourd'hui encore, cette parole retentit pour nous, ici, en tant que communauté, comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Et cet envoi a quelque chose de récurrent là dans le Nouveau Testament. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que nous sommes comme ça tentés de nous replier sur nous-mêmes? Et je cite à nouveau l'Évangile selon Jean, dans les discours d'adieu, quelques chapitres avant, qui me semble est vraiment dans ce mouvement. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il y a eu dans l'histoire bien des manières de vivre l'Évangile et la résurrection au sein de la société. Il y a eu des personnes connues, bien sûr, mais une immense majorité dont les noms ne sont pas dans les livres d'histoire. Mais leur vie de tous les jours, leurs gestes, leurs prières ont rayonné cette bonne nouvelle, et sûrement à leur insu. Et puis j'ai aussi pensé à des personnes connues dont la vie et l'action nous ont été rapportées. Cette semaine, c'était difficile de ne pas penser à Martin Luther King, hein, dont on a, pas fêté, mais dont on s'est souvenu de son assassinat il y a 50 ans. Difficile aussi de ne pas penser à Billy Graham, qui est décédé il y a quelques mois. J'ai pensé à Frère Roger, à Dietrich Bonhoeffer, et il y en aurait beaucoup d'autres. Et j'ai aussi bien sûr pensé à des femmes, à une femme, Thérèse d'Avila. Elle dit ceci à propos de la mission de l'Église, et je me suis dit, ça c'est fort aussi. Verrez qu'elle comprend surtout l'Église comme corps de Christ, au sens vraiment corps de Christ. Voici ce qu'elle dit. Le Christ n'a pas d'autre corps sur la terre que le vôtre, ni d'autres mains que les vôtres. C'est par vos yeux que s'exprime la compassion du Christ pour le monde, par vos pieds qu'il s'en va faire le bien, par vos mains qu'il va bénir aujourd'hui l'humanité. Est-ce toujours d'actualité en sachant qu'elle a écrit ça au XVIe siècle? Je le crois. C'est sûr que la société européenne a changé avec la sécularisation, l'individualisation, la migration, le pluralisme religieux, c'est sûr. C'est sûr qu'on parle aujourd'hui de déchristianisation, de moins en moins de personnes sont reliées à une église. Je vous épargne les chiffres. Mais derrière cette réalité, il y a des hommes, il y a des femmes, des jeunes, des personnes âgées, qui ont cette soif, cette recherche authentique, spirituelle. Et en tout cas, c'est ce que je peux découvrir dans mon ministère d'aumônier auprès de tous. C'est vrai que la plupart du temps, le mot « église » ne les branche pas, quand ça ne leur donne pas des boutons. Mais par contre, d'aller à leur rencontre personnellement, en manifestant un intérêt désintéressé, donc gratuit pour l'autre, les touche. Et j'insiste sur intérêt désintéressé parce qu'il y a à se laisser aussi interroger par le reproche fait de manière tacite à l'Église de ne pas s'intéresser à l'autre, à autrui pour lui-même. D'où le principe de gratuité. Lorsqu'il m'est donné d'écouter une personne confier ben justement ses doutes, ses questions, ses peurs, ses méfiances, il apparaît là au fond cette soif de vie, ce désir de vie en plénitude inscrit au cœur de chaque être humain. L'évangile, la bonne nouvelle, ne s'impose pas de l'extérieur jamais. Au contraire, c'est un message qui appelle à la liberté. La foi ne s'impose pas. C'est un cadeau qui naît à l'intérieur du cœur d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard, d'un mourant, sans bruit, à notre insu. Et c'est tellement mieux ainsi. J'ai présenté ces trois gestes de Jésus adressés aux disciples, la parole ajustée au bon moment, la visualisation des plaies, le souffle, le don du souffle aux disciples pour aboutir à l'envoi, mais certainement que là, dans l'envoi, chacune et chacun, seul ou avec d'autres, nous pouvons expérimenter ces trois dimensions. Parce que dans le monde, le souffle saint œuvre. La parole ajustée et christique nous est adressée et nous pouvons l'adresser à d'autres. Et que dire de cette vulnérabilité, de ces stigmates qui habitent toujours le corps de Christ et qui ne parlent plus qu'une démonstration de force? C'est sûr que ça a un prix d'être au contact des autres, enfin c'est une richesse. Nous sommes remis en question par leurs questions. Nous sommes enrichis, déplacés. Peut-être que là où vous vous êtes placé, il vous semble que des portes sont verrouillées par peut-être toutes sortes de choses. L'Évangile nous redit, me semble-t-il, que rien ne peut empêcher le Christ d'être présent, même là où tout nous semble verrouillé. Je conclus. À quoi comparer ce noyau dur de la foi qu'est la résurrection du Christ premier-né d'entre les morts? Je dirais à un soleil autour duquel tout gravite. De même que nous ne pouvons regarder le soleil en face et encore moins y accéder, nous ne pouvons remonter à l'événement de Pâques pour tout expliquer. Par contre, du soleil, nous pouvons en éprouver la chaleur, la lumière et les effets sur celles et ceux qui reçoivent les rayons. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à nous laisser éclairer, illuminer par ce mystère de la résurrection. Le ressuscité nous envoie pour être porteur, pour incarner ce message là où nous sommes, dans la société d'aujourd'hui, dans l'ordinaire de nos vies, non pas dans l'extraordinaire. Et je recite Hadjadj, il y a mieux à faire que des choses extraordinaires, c'est d'illuminer l'ordinaire de l'intérieur. Il y a mieux que faire des choses extraordinaires, c'est d'illuminer l'ordinaire de l'intérieur. Voilà, j'ai dit en début de prédication que mon but était, non pas que vous reteniez tout, c'est trop compliqué et il y a trop, mais que vous puissiez poursuivre votre propre méditation, puisque je disais, une vie est de loin insuffisante pour en saisir qu'une partie infime. Alors je vous laisse quelques minutes pour méditer. Et après, je terminerai par un texte que vous avez reçu, qui est une confession de foi écrite librement, qui, je crois, résume bien le propos. Est-ce que j'aimerais vous laisser pour poursuivre votre méditation? Quelques minutes de silence, et puis je termine avec ce texte. ait été relevé d'entre les morts pour entrer dans une vie sans limite, je le crois. Que demain, plus tard, dans un avenir qui n'appartient qu'à Dieu, nous soyons à notre tour relevés de la poussière des tombeaux, je l'espère et je le crois. Mais ce qui m'importe, c'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui soit à l'œuvre dans la vallée des ossements où se dessèchent ou pourrissent des hommes sans joie et sans espoir, des hommes piétinés et oubliés, des hommes salis et avilis, la même force qui autrefois a relevé Jésus d'entre les morts et qui demain nous relèvera de la poussière. C'est qu'aujourd'hui dans ta vie et dans la mienne, la même force soit à l'œuvre pour tuer la mort qui tue l'amour, la mort qui tue la confiance, la mort qui tue l'espérance, et pour nous remettre debout. Et cela, je le vois. Le vivant nous fait vivre et de sa vie dès maintenant. Ce que nous deviendrons appartient à Dieu. Mais dès à présent, avec le relevé, nous sommes ses enfants.